Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story les grandes gueules avec Charles Consigny, Barbara Lefebvre et Didier Giraud. À vous de choisir, les Français ne savent plus écrire à la main ou les consignes qui commencent à être envoyées pour bien se comporter pendant le mondial au Qatar, eh ben on en parle maintenant.
RMC les grandes gueules.
À vous de choisir.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur,
asperge
de parfum, rouge à lèvres, carmin,
ouais. J'aurais dû... Et ce dont vous voulez que nous parlions ensemble, c'est bel et bien des Français qui ne savent plus écrire à la main. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a proposé ce sujet et vous l'avez choisi? Parce que c'est le coup d'envoi cette semaine de la semaine de l'écriture avec ce constat, l'avènement de l'informatique, des révolutions technologiques et du portable fait que globalement, une fois qu'on est sorti de l'école, on désapprend à se servir du stylo. Et même pour les enfants, ils écrivent de moins en moins avec les stylos.
Au point peut-être un jour de ne plus savoir se servir d'un stylo et d'un papier, hein, parce que c'est ça en fait l'enjeu. Et c'est ce que veulent éviter les organisateurs de cette semaine de l'écriture qui débute donc aujourd'hui dans toute la France. Avec cette question, est-ce que les Français savent encore écrire à la main l'écriture manuscrite? Alors ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes nous disent pourquoi c'est important d'écrire à la main. Parce qu'en fait, c'est une, je parle devant la prof, c'est une partie plus large de notre cerveau qui s'active lorsqu'on écrit, parce que à ce moment-là, ça demande beaucoup plus de concentration que simplement tapoter sur son clavier, et donc ça améliore la réflexion, le sens critique. Et puis aussi, c'est le fait de s'appliquer à bien écrire. D'ailleurs, on constate, et ça c'est une autre évolution négative, que la qualité de la graphie a baissé, on écrit moins bien, parce que forcément on a moins de pratique. En fac, désormais, les étudiants sont avec l'ordinateur, ils n'écrivent plus leur cours à la main. Alors, il y a encore quelques bastions qui résistent, notamment l'école, mais peut-être qu'un jour, effectivement, les collégiens et les lycéens auront directement ordinateur pour prendre des notes et n'auront plus besoin de prendre des notes par écrit. Est-ce que c'est vraiment un danger, Barbara?
La motricité fine, c'est vraiment quelque chose qui est très nécessaire de faire travailler aux enfants des petits, d'ailleurs même dès la maternelle, même avant la maternelle, j'invite les parents aussi à faire tracer des ronds à leurs enfants, déjà aussi pour qu'ils décident s'ils sont gauchers, droitiers. Mais effectivement, on a vu que l'écriture manuscrite, elle était très stimulante, plus stimulante pour un certain nombre de fonctions cérébrales, notamment occipito-pariétal, bref, l'avant et l'arrière du cerveau, pour justement favoriser l'apprentissage. Et en particulier, on s'est même rendu compte, il y a eu des études qui ont montré à l'université, donc chez des étudiants, que les étudiants qui prennent des notes à la main vont avoir des capacités d'encodage, c'est-à-dire de prémémorisation et de traitement de l'information qui sont supérieures aux étudiants qui vont prendre le cours en tapant. Parce que quand vous prenez le cours en tapant, vous allez pouvoir prendre beaucoup plus d'informations, donc vous allez moins trier, alors que quand vous écrivez à la main, vous allez moins vite. Et donc vous êtes déjà en train de faire un travail de mémorisation, d'encodage, et donc déjà un pré-traitement de l'information. Donc vous êtes déjà presque en train d'apprendre votre cours et de le comprendre pendant que vous l'écrivez. La prise de notes, c'est quelque chose qu'on ne travaille pratiquement plus. Moi, j'ai essayé de travailler la prise de notes avec mes élèves de 4e, 3e. C'était plus du tout à la mode. Hein. Je me rappelle que les inspections nous disaient que non, la prise de notes, c'est trop compliqué, c'est pour l'université. Genre, je te croyais tomber des nues. Mais la prise de notes, même maintenant au lycée, c'est quelque chose qu'on travaille très peu. Et dernièrement, je connais un jeune étudiant en classe prépa. Il m'expliquait que quasiment la totalité des cours en prépa, les profs acceptaient l'ordinateur.
Oui, mais tous, ils ont
et qu'il y avait encore la prof de philo et la prof d'allemand, je crois, qui interdisaient l'ordinateur et qui les obligeaient à écrire. Et il me disait que lui, il était plus à l'aise d'ailleurs quand il se mettait à écrire manuscrit, parce qu'il avait cette habitude-là, mais qu'il tapait beaucoup plus vite sur l'ordinateur. Donc, d'un point de vue cognitif, neurocognitif, c'est beaucoup plus important.
Mais donc qui surtout, écrit aujourd'hui dans la vie ?
Surtout ne jamais mettre d'ordinateur et
toi,
de taper.
Tu écris à la main, je regarde, je vois des.
Oui, oui, j'écris tout à la main.
Je peux montrer les notes ?
Oui, oui, j'écris à la main.
Celle de Barbara, tu arrives
à la main. Ah, moi j'ai toujours mes cahiers, moi j'ai mes cahiers, c'est comme ça que je prends des notes.
C'est écrit sur la fiche que tu viens de montrer.
Il y a un peu sur les loups, mais je ne vais pas vous le lire parce que c'est trop dur.
Il y a Didier, cette enflure, j'ai lu.
Tueur de loups. Non, mais.
J'ai lu, je vais le crever.
Non, mais en tout cas.
J'ai mal lu quand même, Barbara.
Non, mais j'ai écrit pire. Parce que j'avais prévu le Qatar, j'étais encore plus énervée.
Elle écrit bien, tu n'as pas de rature, etc.
Ah non, j'ai pas de rature. Non, mais en tout cas, n'engageons surtout pas les gamins jusqu'en troisième à autoriser l'ordinateur en classe. Non, mais attendez, ça commence.
Oui, mais d'accord, mais dans la vie d'adulte, qui écrit ? Toi, tu écris la main, toi, Charles ?
J'écris parfois des choses à la main, ouais. Parfois. Si je prends des notes sur un
très beau stylo, là, d'ailleurs. En même temps, non, là, j'ai un tu dessines plus que t'écris pas, mon cher Charles.
On m'a offert un stylo d'une grande maison que je ne citerai pas, la grande maison des stylos. Alors, je le dis à nos auditeurs, j'espère qu'ils sont nombreux. Les stylos de cette grande maison fuient systématiquement. Les stylos
comme le prince Charles.
Le roi Charles III.
J'ai les mêmes problèmes que le roi d'Angleterre.
C'est pas le roi qui fuit, hein, c'est son stylo.
Attention à ce que vous dites. Moi, j'aime énormément les stylos plumes jetables. Tu sais, les stylos.
Ça écrit super bien.
Je sais plus quelle marque fait ces stylos.
Moi, je le dis pas.
C'est très agréable.
Mais toi, Didier, tu écris ?
Écoute, moi,
même les papiers administratifs.
Par défaut, moi. Par défaut, j'écris parce que. Regarde la taille de mes pouces. Tu m'imagines sur un clavier à taper danois. J'ai horreur de faire un mail. Et alors, j'utilise parfois le dictaphone pour faire un SMS, un truc comme ça. Là, je me suis mis aussi. Mais si j'ai un texte un peu important, tu vois, la première page d'un grand bouquin ou non, un discours, un truc qui est qu'une collaboratrice retape. En général, je le manuscris et je le passe au scan parce que j'ai plus de facilité à écrire. À la main que à écrire mais avec vous, un clavier.
Nous, les journalistes,
j'ai vraiment du mal à écrire avec un clavier.
Vous imaginez dans 100 ans, quand on devra étudier les manuscrits des grands écrivains, bon, vous me direz, il n'y a plus beaucoup de grands écrivains, mais quand vous voyez voyez un manuscrit de Flaubert, je veux dire, Madame Bovary, la généalogie du texte est absolument splendide. Aujourd'hui, vous avez des écrivains qui écrivent tout sur ordinateur. Ouais. Donc après, ils raturent, mais aux marges, on aura quoi ? On aura des espèces de trucs avec des.
Mais si, il y a quand même.
Ouais, mais c'est pas la même chose.
On rature à la main. Il
non, parce que
ça.
Quand tu écris, tu effaces, alors que dans un manuscrit de Flaubert ou de Balzac, tu vois la rature, tu y rayes, tu vois le cheminement de la pensée.
Ça, c'est une idée réactionnaire que tu as, Barbara. Car quand tu écris même à l'ordinateur, parfois tu écris des pages que tu ne gardes pas et que tu vas quand même imprimer entre temps.
Non, parce que tu les effaceras ton ordi.
Tu effaces.
Effaceras.
Non, pas du tout.
Moi, j'ai écrit la plupart de mes bouquins sur l'ordi. Il y a eu plein de pages que j'ai effacées.
Avant d'aller sur l'ordinateur.
J'écrivais le brouillon ou le plan à la main, mais après je tapais.
C'est dommage, quand j'ai lu tes livres, je me suis dit c'est dommage qu'elle les ait pas écrits à la main parce que ça stimule plus le cerveau.
C'est ça, voilà.
Quand on écrit à la main. Et j'ai senti que c'était.
Du coup, on comprend là cette petite pensée étriquée
qui n'était pas stimulée.
C'est pour ça que j'en ai pas vendu assez, tu vois. Voilà. Ça ne m'a pas permis de vivre.
Le prochain, il faut que tu l'écrives à la main.
Mais j'y pense.
Moi, je les écris avec les pieds, donc ça stimule encore plus.
C'est là que ça se voit.
Ouais.
Mais écrire à la main, le fait qu'on perde l'habitude, on perd l'habitude d'écrire à la main, donc on écrit mal aussi, on écrit moins bien.
Ça, c'est vrai. Graphie, oui, mais
moi, je sais que disent.
Mais non seulement ça, mais la graphie n'est pas non plus travaillée à l'école.
Oui,
les professeurs de CP, normalement, un professeur de CP, il devrait avoir une formation très spécifique sur la tenue du stylo et la graphie.
Attends, mais moi, on a demandez des cahiers spéciaux, hein.
Demandez à un professeur le temps de formation qu'il a sur la question de la graphie et la tenue du stylo, c'est une demi-heure dans toute sa formation, une heure à tout casser, alors que c'est essentiel.
Oui,
et là, vous allez avoir des contractuels qui vont avoir des CP. Je vais vous dire, la tenue du stylo, ils savent déjà même pas ce que c'est apprendre avec la méthode syllabique, alors avec la tenue du stylo.
Si je me souviens bien, les premiers, je les ai encore, il faudrait que je les retrouve dans mes cartons, mais les premiers cahiers qu'on a eus.
Des exercices d'écriture.
Il y avait à l'encre et à la plume.
Moi, j'étais un des derniers à être à l'encre.
Ah oui, non, quand même, pas moi.
J'ai mes premiers cahiers.
À la plume, tu veux dire.
Même un autre siècle.
Oui, avec l'encrier à la plume.
On écrivait mieux.
Des pleins et des déliés.
T'étais obligé de bien écrire avec.
Mais c'est surtout que. Je me souviens, c'était des cases qui étaient complètement différentes.
Oui.
C'était pas les carreaux, les petits carreaux. On avait.
C'était des lignes.
C'était une ligne. Il y avait juste une ligne, et c'est une autre ligne,
c'est
et les
mieux.
Minuscules, tu devais dépasser. La majuscule.
Je m'en souviens très bien.
C'était deux lignes.
Les
et la minuscule, tu devais rester dans l'intervalle de la première ligne.
Eh ben, je vous signale que ça, c'est ce qui est conseillé pour les enfants qui ont des problèmes de graphie et notamment les élèves dyslexiques. Alors que les carreaux, vous savez, les grands carreaux, oui. Les petits carreaux, ça perturbe complètement la vue de ces gamins-là parce qu'il y a trop de lignes et ils n'arrivent plus à calibrer. Alors que quand vous faites une seule ligne pour les minuscules et une ligne pour les majuscules, c'est beaucoup plus pratique. Et il commence à y avoir de nouveau en vente des cahiers comme ça pour les gamins qui, justement, ont des problèmes de vue et de dysgraphie.
On va en parler avec Sylvie. Ça va nous emmener du côté du Lot-et-Garonne. Bonjour Sylvie.
Bonjour les grandes gueules.
Alors, est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce qu'on sait encore écrire à la main, alors, Sylvie?
Alors, moi, je suis inquiète, en fait, parce que je m'aperçois que les jeunes ne savent plus du tout écrire. Ils sont complètement sur leur portable.
Oui.
Moi, j'ai ma fille qui a fait 2 ans de fac, donc aucune écriture. C'était soit des photocopies, soit travail sur Internet. Moi, quand je vois ma fille de 20 ans, quand elle écrit, elle a une écriture d'un enfant en primaire. Et ça, ça fait très peur parce qu'on se dit, moi, comme je lui dis des fois, tu t'imagines si tu fais une lettre de motivation pour un employeur, moi, je te prends pas, c'est pas possible.
Elle va vous répondre qu'elle va l'envoyer.
Mais les lettres de motivation, c'est même plus à la main.
Eh ben, oui. C'est dommage parce que ça reflète quand même la personnalité. Et tout se fait sur Internet. Et maintenant, je vous dis, moi, je vois même les copines de mes filles ne savent plus écrire. Alors, c'est bourré de fautes. C'est
aussi,
des écritures de primaire. C'est catastrophique. Pour le futur, c'est catastrophique.
Ah, carrément, vous dites, c'est des écritures de primaire alors qu'elles sont. Votre fille est à la fac.
Ah oui, tout à fait. Oui. On a l'impression qu'elle ne sait pas tenir le stylo et vous savez qu'elle force sur les lettres. J'ai jamais vu ça. Je pensais même pas que ça pouvait exister.
Donc vous dites quand même qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années d'école.
On le sait qu'à la fac, il y a des cours de rattrapage sur la grammaire et l'orthographe.
Bah, la fac,
et même maintenant, dans les entreprises, il commence à y avoir des prestataires extérieurs qui proposent des formations pour l'orthographe.
Oui, mais ce que je comprends pas, pardon.
C'est bien là qu'on voit que l'éducation
nationale. Là, on a fait naître donc un nouveau business. Quoi. Donc on est obligé de rattraper auprès d'élèves qui ont 17, 18 ans, ce qui n'a pas été fait avant.
Pourquoi qu'est-ce qu'ils font avant?
Oui, qu'est-ce qu'on fait entre 6 ans et 18 ans?
Quand il y a eu des profs, il y a déjà 30 ans, qui s'élevaient contre le pédagogisme, les âneries de l'apprentissage de la lecture globale et tous ces trucs-là, on nous disait quoi? Ah, vous êtes des réacs, vous voulez l'école d'avant, vous voulez l'école... Bah oui, on voulait l'école de ceux qui savaient lire, écrire, compter, et ni plus ni moins. Moi, je suis désolée, encore une fois, je l'ai déjà dit ici, ma grand-mère et mon grand-père, qui étaient des enfants vraiment de la classe très populaire... une de l'autre côté de la Méditerranée, un autre dans des écoles en Corse et à Marseille, eh ben, ils n'ont jamais fait d'études, mais jusqu'à la fin de leur vie, ils savaient écrire sans faute d'orthographe.
Sylvie nous alerte donc
sur le cas par classe.
De sa fille qui a perdu l'habitude d'écrire. Là, aujourd'hui, elle est
à la
fac. Qui écrit
comme une enfant de mère.
La photocopie, drame absolu de l'éducation nationale.
Attends, parce que je remercie Sylvie d'avoir témoigné, mais... On a Julien qui nous appelle de Vendée. J'embrasse Sylvie. Julien, bonjour. Julien, parce que
Julien B. Ça va, Julien B. Ce matin.
Et dites-moi, Julien, ce qui est intéressant. Écoute, parce que Julien, vous venez de faire une lettre de motivation. Vous avez écrit une lettre de motivation. Vous y êtes arrivé ou pas?
Ça a été compliqué. J'avoue que moi, je suis commercial. Je suis toute la journée sur la route. On fait des visios. On travaille essentiellement par mail. Et c'est vrai que ça a été pas un calvaire, mais je me suis demandé si j'allais arriver à finir à écrire cette lettre. C'était très compliqué.
Vous aviez perdu l'habitude d'écrire, quoi, en fait. C'est
Même il y a des moments, je me suis demandé comment. C'est fou, mais les lettres, j'avais perdu l'habitude d'écrire certaines lettres.
Ah oui, c'est fou. C'était après l'apéro?
Non.
Mais vous écrivez jamais un petit mot à une amie, à papa,
en fait,
maman, je sais pas.
On fait beaucoup textos, on écrit que des mails.
Quand est-ce que tu écris finalement?
Mais on fait même des mails en les dictant au PC.
Oui, c'est ça. Maintenant.
C'est pour gagner du temps. Donc c'est vrai que ça devient.
Il vous a été demandé de faire cette lettre de motivation manuscrite?
Oui.
Ah, oui. Ça c'est bien parce que
ça, c'est
rare.
Je peux pas trop en parler, mais c'est la personne m'a demandé impérativement une lettre manuscrite.
Et Julien, en toute franchise, vous vous y êtes repris à combien de fois avant d'arriver à l'avoir écrite correctement alors?
J'ai peut-être 7-8 fois.
Ah oui, quand même.
Ouais. Mais tu sais qu'il y a là aussi un business. Avant au Moyen Âge, il y avait des gens qui écrivaient
les
écrivains publics. On va peut-être remettre ça au goût du jour des gens qui viendraient écrire.
Mais je pense qu'on devrait forcer les gens à écrire. Tout simplement.
Ah oui, carrément, Julien.
Mais bah, c'est à l'école. Enfin, moi, je comprends pas. C'est à l'école. Faut remettre l'enseignement.
Non, mais ça se perd quand même, Olivier.
Si tu savais le nombre de choses qu'il faudrait remettre à l'école.
Non, mais est-ce que je présume que Julien, il a appris à l'école à écrire?
Oui. Non, c'est vrai que ça se perd quand on est adulte.
On s'est amusé avec mes enfants l'autre jour. Ils m'ont dit, saurais-tu faire les majuscules?
Déjà, ils disent, saurais-tu?
Oui, déjà.
Donc, ils sont quand même
on a changé de siècle.
Parce que moi, je pensais qu'ils auraient dit, tu saurais? Tu vois? Alors, saurais-tu, quand même?
Non, saurais-tu refaire les majuscules?
Et ah oui, les majuscules.
Et je me suis essayé à refaire tout l'alphabet en majuscules. Eh ben.
C'est hyper dur.
Eh ben, il y a des lettres où tu dois réfléchir quand même, hein.
Mais même.
Et ça, c'est qu'une histoire de pratique, parce que.
Alors attends, je vais te dire. Même aujourd'hui, t'as plus aucun enfant qui apprend à faire les vrais majuscules.
Tu montes comme ça.
Tu les fais plus les vrais majuscules, c'est très dur.
Le F, c'est comme.
Pourtant, c'est beau.
Vas-y, fais le F.
Non mais.
Il est fait dans l'air à la Marshall. Il sait pas les faire autrement.
C'est la R écriture. Attends. Le F. Comment?
Parce que le F, attends, on le fait.
Comment on le faisait le F?
Ça, maintenant.
Oh, ah bon, oui, non, bah bravo. Ah, il est beau ton F.
Non, c'est une croix.
Merci, Julien.
C'est le F de France.
Bonjour à vous, les GG.
Salut, Julien. Non, à bientôt dans les grandes gueules. Salut, Julien. Donc, vous vouliez qu'on parle de l'écriture ensemble.
Comment tu fais le F?
Non, mais
c'est des croix gammées sur son
bleu. Le G.
Lundi matin.
Le H. Le G, c'est le bar.
C'est intéressant de refaire.
Ah non, mais c'est vraiment dur, en fait. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, GG, c'était match. J'ai déjà mes cartons, le rouge, le jaune. On a aussi les coups de sifflet. Voilà. On a le. Il y a celui-là aussi.
Silence pour la France!
Parce que ça va chauffer dans les grandes gueules. La réforme des retraites doit-elle faire l'objet d'un référendum? Oui pour Barbara et Olivier, non pour Charles et Didier. Et on vous attend au 32-16.
Les grandes gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours en direct. Aujourd'hui, notre trio de GG, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Barbara Lefebvre, qui est enseignante en reconversion, et Charles Consigny, avocat. On va parler de la réforme des retraites, telle qu'elle va arriver. Puis il y a une pression qui est mise sur le président de la République, sur le gouvernement. Monsieur le président, n'ayez pas peur du peuple, faites donc un référendum. Dernier à l'avoir proposé encore, il s'agit du député de la Somme, François Ruffin.
RMC.
GG, 7 et match.
Plutôt que de passer en force, plutôt que d'utiliser le 49-3, Ruffin suggère au président de se retourner vers le peuple.
Le mandat qui est en jeu aujourd'hui, pour moi, c'est pas le mandat des députés. C'est le mandat du président de la République. C'est sa réforme qui veut passer à tout prix. Donc c'est son mandat qui pose question. Moi, je suis favorable à ce qu'il, s'il veut passer en force sa réforme des retraites, qu'elle passe par référendum et que, comme l'a fait Charles de Gaulle, eh ben, il respecte l'avis du peuple français. Et si c'est non à sa réforme des retraites, c'est lui qui doit remettre son mandat en jeu.
François Ruffin chez nos confrères d'RTL. Alors, la question, la réforme des retraites doit-elle faire l'objet d'un référendum? 32-16 pour en parler avec les GG. Deux équipes face à moi. Non pour Charles et Didier. Oui pour Barbara et Olivier. C'est Barbara qui va lancer le débat. 60 secondes, c'est parti.
Oui, alors effectivement, Emmanuel Macron doit le faire parce qu'il avait en partie annoncé en 2017 que ça allait être la réforme de son quinquennat. Cette réforme n'a pas été faite parce que déjà, personne n'y a rien compris. Un coup, c'est systémique, un coup, c'est paramétrique, un coup, c'est ni l'un ni l'autre, un coup, c'est et l'un et l'autre. Un coup, c'est non, mais non, je vais pas augmenter l'âge. Un coup, on passe de 62 à 65. Un coup, la pénibilité. Un coup, non, pas la pénibilité. Un coup, 2021-2022, il y a des excédents dans la caisse. Maintenant, ah non, il n'y a pas des excédents. On va tous mourir, il y aura plus d'argent pour les retraites. Et d'ailleurs, ce serait bien de dégager des marges de manœuvre financières grâce à cette réforme des retraites. Bref, plus personne n'y comprend rien. Les Français sont majoritairement, pour l'instant, dans les enquêtes qui sont données, hostiles à cette réforme des retraites. D'abord parce qu'ils n'y comprennent rien et qu'Emmanuel Macron n'a absolument jamais mis sur le tapis la réalité de la réforme qu'il veut conduire. Donc oui, c'est par référendum que tout cela doit passer parce que ça concerne tous les Français, des plus jeunes aux plus vieux. Un jour ou l'autre, on sera retraités, sauf si évidemment c'est avant. Donc c'est fondamental et en effet... François Ruffin parle d'or, c'est une façon pour le président de la République d'enfin montrer qu'il a du courage et de remettre son mandat en jeu, un mandat qui d'ailleurs mériterait qu'on se questionne sur la complexe et la totalité de sa légitimité aujourd'hui.
Carrément.
Oui, carrément.
Comme vous y allez.
Charles, Didier, allez-y.
Didier ?
Ouais, moi ce que je voulais dire c'est que je trouve que c'est un piège politique et que François Ruffin, la NUPES et puis peut-être d'autres à l'Assemblée nationale sont en train de tendre un piège politique à Macron parce que, tu l'as dit toi-même, il y a une majorité des Français qui sont hostiles pour des raisons diamétralement opposées à cette réforme et que quand t'agglomères ces gens-là, ça fera une majorité de contre et je pense que faire un référendum, c'est la meilleure façon pour qu'on ne touche pas, une fois de plus, aux retraites. Et je pense que dans l'hémicycle, il y a des gens qui sont hostiles pour telle raison et d'autres pour telle raison. Quand ces gens-là vont s'agglomérer contre la réforme des retraites, il ne se fera rien, une fois de plus, alors que notre système de retraite a besoin d'être réformé.
Oui, voilà. Mais quelle réforme? Parce que le problème...
Non, mais qui définisse la réforme, c'est une chose.
Ah bah,
qu'on fasse un référendum anti-Macron, c'est une autre chose.
Il a proposé une première réforme en 2017 qui n'était pas celle qu'il veut, a priori, nous proposer là en 2022, puisqu'en 2017, il changeait le système. C'était la fin du système par répartition et c'était un autre système qu'il mettait en place. C'était complexe. Peut-être d'ailleurs, là, il aurait fallu un référendum parce qu'on changeait vraiment de système. Là, c'est pas vraiment une réforme. C'est il l'ajuste. C'est-à-dire que il y a un trou dans la caisse. Il va arriver et donc on va faire un peu travailler plus ces gens pour remplir le trou. Hollande a fait pareil puisqu'on est passé, on a augmenté la durée de cotisation et Sarkozy a fait la même chose. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un référendum sur une vraie réforme. On met tout à plat, on voit si notre système de répartition peut tenir. Moi, j'en suis pas sûr.
Au moins, on connaît déjà le résultat du référendum, Olivier. Non, bien sûr que si. Si tu mets dans la balance suppression des régimes spéciaux, allongement de la durée de cotisation, je pense que le résultat, toi et moi, on le connaît.
Il veut plus supprimer les régimes spéciaux,
il a dit. 65%
c'est ce qu'il y a le plus populaire, à mon avis.
Moi, je vais te dire.
Sur les régimes spéciaux, il n'y a que les gens qui ont les régimes spéciaux qui veulent les garder.
Les réformes de retraite qui ont été faites, 93, 2003, 2010, 2014, est-ce que ces réformes des retraites ont permis, par exemple, de régler un problème qui est le problème majeur du sous-emploi des seniors? Non, puisqu'en réalité, le chômage des seniors n'a cessé de continuer à augmenter.
C'est pas l'objet de la
réforme. C'est pour vous montrer que les réformes de retraite. La réforme des retraites, c'est faire travailler les gens plus longtemps. Déjà, on n'arrive même pas à ce que les gens travaillent après 55 ans. Je veux juste signaler.
C'est logique.
À 50-54 ans, le taux d'emploi en 2020, c'est 80%. À 54-64, on est à 56. 60-64 ans, or, on veut nous mener jusqu'à 65 ans. On est à 33% de gens qui travaillent dans la tranche des 60-64 ans. Donc, déjà que les gens puissent avoir un taux d'emploi soit satisfaisant avant de leur demander d'aller jusqu'à 65.
Bon, ça, c'est une logique de gauche. C'est avec cette logique qu'on a fait les 35 heures et ça n'a pas marché. En réalité, plus vous avez de gens qui travaillent, plus ils travaillent longtemps, plus ça génère de l'activité qui va créer d'autres emplois pour d'autres gens qui n'en ont pas. Donc c'est malheureusement, ça n'est pas aussi mécanique que ça. C'est pas parce que vous sortez des gens du marché du travail que derrière vous libérez des places pour garder des seniors au travail jusqu'à leur retraite. C'est pas aussi simple. Moi, je pense que notre pays doit se remettre à travailler. Je pense que la retraite est pas forcément un bon truc pour tout le monde très tôt. Je pense que ça. Le fait d'être tout à coup désœuvré, ça rend pas toujours service aux gens, d'être complètement désœuvré. Je me souviens, à ce même plateau, on a eu il y a pas très longtemps au téléphone une dame qui travaillait comme secrétaire à mi-temps, je crois, alors qu'elle est, elle avait l'âge d'être à la retraite. Ma consœur Marianne Soubré s'étranglait du fait que cette dame ait encore besoin de travailler. Et cette dame, je l'ai interrogée, était-elle contente d'aller bosser? Elle était contente parce qu'elle voyait des gens, parce qu'elle était, elle avait une activité, etc. Donc il faut aussi arrêter avec cette espèce d'autoritarisme idéologique de la gauche qui voudrait qu'en fait on travaille tous de manière contrainte indéfiniment. C'est pas vrai. Il y a des gens, ça leur fait aussi du bien de travailler.
Débat.
Et je suis désolé.
Le débat, c'est le référendum.
J'en parlais aussi avec quelqu'un que je connais, bref, un ancien, quelqu'un qui travaillait au ministère de l'Intérieur. Il a pris sa retraite vers 59 ans et il a 2 500 € par mois de retraite. Bah, je suis désolé, c'est pas possible. On peut pas prendre sa retraite à 59 ans et avoir 2 500 € par mois jusqu'à quel âge? Jusqu'à 100 ans de retraite pendant que les gens payent ça. Moi, je paye des cotisations de retraite comme avocat qui sont extrêmement élevées, qui sont même délirantes et que je ne retrouverai évidemment pas au moment où je vais me remettre, où je vais éventuellement un jour, mes avocats prennent moins leur retraite que les autres, mais bon, mais ta retraite. Donc il faut qu'on va pas faire un référendum. Je veux dire, la France qui a déjà un problème majeur de sous-activité, on va pas aller à fond dans cet épisode des Schtroumpfs et se couvrir de ridicule en faisant un référendum pour savoir à quel âge on veut s'arrêter de bosser. On est déjà peu ou prou à la retraite.
Il y a déjà un certain nombre de Français, je suis désolé, qui sont déjà en pré-retraite entre leur temps de travail extrêmement réduit, leurs arrêts maladie, leur télétravail, leurs avantages divers et variés.
Voilà, vous avez, Sarah Salman.
Bah, je suis désolé, vous avez tout un tas de secteurs d'activité.
Oui, mais la date d'admission
où les gens sont déjà en pré-retraite.
Bah, mais le débat est sur le référendum.
Et bah, pas de référendum, des ordonnances. Moi, je suis pour qu'on réforme.
Mais le référendum, le problème du référendum, c'est qu'il est même De Gaulle faisait ça, c'est-à-dire qu'il est utilisé comme plébiscite, c'est-à-dire c'était en gros voter oui, sinon c'est le chaos.
Si les Français répondent à la question, c'est peut-être bien.
Je vais terminer, Marie. De Gaulle a fait ça et jusqu'au jour où malheureusement ça s'est arrêté. Mais si tu utilises le référendum à la mode suisse, c'est-à-dire que tu mets pas
une votation,
tu mets pas un enjeu en disant voter oui ou sinon c'est le chaos, moi je pense que les gens répondront enfin à la question. Les Suisses, ils sont.
On n'est pas plus con que
les Suisses. On n'est pas plus con que les Suisses. Je pense qu'on peut très bien répondre enfin à la question, mais d'ailleurs il faudrait faire des référendums. Mais
quelle est la question ? Olivier, t'es un journaliste avisé. Pas tombé de la dernière pluie. Quand François Ruffin propose ça, tu sais très bien que c'est pas pour répondre à la question, Olivier.
Que ce soit François Ruffin, je pose la question du référendum. Pourquoi en France on ne fait pas plus de référendums sur des questions concrètes
pour changer de paradigme ? Je vais te dire aussi pourquoi en France plus aucun chef de gouvernement et chef d'État n'aura le courage, parce qu'il y a eu le référendum de 2005 qui a été la grande trahison démocratique. Oui. Les Français, dans l'histoire de la Ve République, lorsqu'ils ont voté non à un référendum, ça a eu des conséquences politiques, parce que la structure même des institutions de la Ve veulent qu'il y ait cette présidentialité.
Mais Barbara, tu sais très bien que si demain, Didier a raison, si demain on fait un référendum, ça c'est très bien.
Les gens vont pas répondre à la question.
Ça va devenir une usine à gaz extraordinaire.
Ça deviendra.
On va parler que de ça, Matamine.
Mais bien sûr.
Et ça va être un référendum pour
Macron.
Moi, j'ai pas une passion pour Macron.
C'est d'ailleurs ce que dit François Ruffin.
Il n'y a pas d'urgence à faire un référendum.
Quand Emmanuel Macron.
Il n'y aura plus jamais de référendum.
Mais
je suis désolé, les gens n'ont pas
je suis désolé, les gens n'ont pas voté Mélenchon aux dernières élections.
Mais c'est pas ça.
Ils n'ont pas élu non plus Marine Le Pen. Je suis désolé, les forces d'inertie quand même dans le pays de non-réforme. Encore une fois,
pourquoi tu penses que le référendum perd? Pourquoi tu penses que
je pense que quand le peuple s'exprime, ça ne convient pas à Charles Consigny.
Justement,
il veut gouverner par ordonnance comme à l'époque de la monarchie absolue.
Je pense que le peuple s'est exprimé quand il choisit de voter plutôt Macron que Mélenchon ou Le Pen, il vote quand même pour qu'il y ait des réformes malgré tout,
Soit la réforme des retraites.
En tout cas, sur la réforme des retraites, le camp Mélenchon-Le Pen, c'est la même chose. Et là, il est majoritaire.
Ils sont pour la retraite à 60 ans.
Je vais te dire une chose.
On peut additionner ça.
Comment ?
On peut pas additionner comme ça.
Ah bah, non, mais Emmanuel Macron. Emmanuel Macron.
Quand tu fais un référendum, oui, non.
Monsieur Macron a conditionné. Monsieur Macron nous a dit mon premier quinquennat, la réforme des retraites, c'est majeur.
La réforme des retraites.
Ses ordonnances travail, c'est le seul truc qu'il a vraiment fait passer. Il l'a fait passer par ordonnance justement. Il bénéficiait de son premier élan. Il nous a expliqué que c'était le cœur de sa matrice idéologique, les retraites, machin truc. Il a rien fait. Donc le deuxième, il recommence les retraites. Il faut absolument que je la fasse. Il l'a conditionné aussi à sa façon de gouverner, à ce qu'il est. Donc à un moment donné, il remet aussi son mandat.
Du coup, Barbara est en train de nous inviter à faire un référendum
anti-Macron.
Didier, tu dis que Ruffin fait de la politique, mais quand Macron met sa réforme des retraites comme seule mesure, il séduit son électorat, qui est un électorat de retraités, pas concerné par la réforme, mais qui veut cette réforme.
Et qui nous dit en plus ça va servir à financer mes dépenses.
Barbara Lefebvre, on a sifflé la mi-temps, on va regarder où on en est justement dans le score. Référendum, oui, 72%.
Le peuple parle. Les forces d'inertie sont levées.
72, 28.
Le dernier qu'il y a eu dans la cinquième, il a servi à quelque chose.
Dans un instant, Mehdi avec nous, du côté de la Meurthe et Moselle, du côté de Nancy.
Pays de la Mirabelle.
Pays de la Mirabelle, ah bon?
C'est Nancy,
ça est bien. Oui, bien sûr.
La tarte à Mirabelle, la saison est terminée.
Ça dure pas longtemps,
La saison est terminée.
Confiture de Mirabelle le soir.
Bon. Avec modération.
Dans un instant, Mehdi, infirmier, veut-il, oui ou non, un référendum sur cette réforme des retraites? On en parle, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC. RMC Story en plein de discussions, en plein de débats dans les GG, là, dans ce GG 7 et match autour de la réforme des retraites, ou plutôt de la forme qu'elle doit prendre. Est-ce qu'il faut un référendum? Pour soi, les Français qui tranchent oui ou non, c'est la question qui est posée. C'est Mehdi qui veut en parler avec nous. Bonjour Mehdi.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez choisi votre camp, Mehdi, lequel ?
Ah, bah, clairement, j'ai choisi le camp du référendum.
Le camp du oui, pourquoi ?
Parce que je pense que ce pays a besoin de démocratie. On sort quand même d'une période qui a été affreusement compliquée. Moi, je suis infirmier, hein, je ne sais pas si vous l'avez, ouais, vous l'avez précisé tout à l'heure.
Oui, oui.
Donc, on s'est pris le Covid. Je pense que toute la population sort quand même de 2 ans extrêmement compliqués. Là, on a l'inflation, la cherté de la vie, la dureté de la vie, qu'on se prend tous en pleine tête. Je pense que plutôt que de remettre de l'huile sur le feu, plutôt que de redresser encore les gens les uns contre les autres, on devrait peut-être organiser un référendum. Comme l'a dit Ruffin, je pense que le pouvoir n'a pas à avoir peur des Français. C'est eux qui l'ont élu, hein, en partie. Mais à un moment, quand même, la société, elle a hyper divisé. Plutôt que de passer en force avec un 49-3 ou des ordonnances, comme l'a dit tout à l'heure monsieur de Courson, il faudrait peut-être qu'on crée un peu un débat dans le pays, que les gens discutent. Ils vont très probablement s'engueuler. Ils vont s'engueuler très très fort, mais au moins ils discuteront.
Mais Mehdi, le Parlement, c'est la représentation du peuple. C'est déjà le débat entre des forces.
Bah, oui, mais
dans
le 49-3,
il n'y a pas d'assemblée dans le 49-3. Oui, le 49-3, c'est dire à l'assemblée, fermez là.
Oui, mais enfin, c'est inscrit dans la Constitution. C'est pas un coup d'État, le 49-3.
Mais encore une fois, cette problématique des retraites.
Mais ça tue
si Monsieur Macron, l'avait faite, sa réforme des retraites, sa réforme universelle à points, machin, s'il était si génial, il avait qu'à la faire dès le premier quinquennat. Au premier quinquennat, il n'a pas su la faire parce qu'il n'a même pas su.
Mais c'était pas la même.
Parce que personne n'était d'accord.
Il a changé depuis.
Parce que même son premier ministre, Édouard Philippe, n'était pas d'accord. Donc, sa première réforme, c'était un brouillon tout pourri, personne n'a rien compris. Et maintenant, la deuxième, il voudrait nous la faire passer au 49-3. Mais ça va bien, oui. Non,
attendez une seconde. Attendez, Mehdi.
Ouais, j'ai juste si vous me permettez d'intervenir. Même si évidemment, je veux dire, il y a des Macron a été élu, des députés ont été élus, mais en quoi est-ce que faire un référendum, ça ôte la légitimité du Parlement et du président?
Alors,
je veux dire, à un moment, on a le droit d'écouter les Français, de leur poser la question sur un sujet.
Le problème, c'est que les présidents organisent les référendums quand ils sont sûrs de les gagner. Parfois, ça ne fonctionne pas. L'Europe, par exemple, Chirac à l'époque, et d'ailleurs, les principaux partis défendaient le oui à la Constitution européenne. Ils pensaient que ça passerait facilement, et puis malheureusement le peuple a dit le contraire. De Gaulle, son dernier référendum, il pensait que ça passerait sur la généralisation et la réforme du Sénat, et puis finalement les gens en avaient un peu marre, ça faisait 10 ans qu'ils étaient au pouvoir, ils sont passés à autre chose. Mais c'est vrai, le problème c'est que le président, le référendum tel qu'on l'a institué avec la 5e République, c'est très pernicieux, c'est-à-dire que le président utilise cette arme uniquement quand il est sûr d'obtenir un oui.
Je suis pas d'accord, ça n'a rien de pernicieux, un référendum. Il y a plein de pays, aux États-Unis, en Suisse, il y a plein de pays où on demande régulièrement aux gens de s'exprimer, alors que c'est des pays qui ont déjà une représentation, c'est des pays qui ont un président. Simplement,
mais vous
c'est
savez
un
quoi, moi je pense que
institué. Pourquoi on l'utilise jamais en France?
Mais Mehdi, vous savez quoi,
on l'utilise en France.
Macron,
hein,
Macron devrait l'utiliser, le référendum. Ah non, la dernière fois c'était quand même.
Ben, la dernière fois c'était Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que les Français ont dit?
Non.
Parce que les gens du camp ont dit. Ce que les gens ont dit, ils ont fait l'inverse. Donc
Macron, c'est pour ça que Macron devrait utiliser le référendum pour se renforcer, c'est-à-dire montrer qu'il est un vrai démocrate. Dire ah ben vous avez voté non, ben d'accord je la ferai pas. Mais quand on
reste en place, à la limite,
reste en place. Mais bien sûr, à la limite.
Oui, je suis du président pendant 5 ans.
À la limite.
Mais pas pareil.
Comme ça,
mais pas comme en 2005 où on vote non. Et nos gouvernements font comme si on avait dit oui. Là, on dit non.
Moi, j'aimerais savoir, mais qu'est-ce que vous alliez voter à ce référendum? Qu'est-ce que vous iriez voter à ce référendum?
Vous me posez la question à moi?
Oui.
Bah, évidemment. Et comme tout le monde, et je voudrais préciser quelque chose.
Évidemment, non.
Juste, je voudrais préciser une chose à monsieur de Courson tout à l'heure qui disait que de toute manière,
sinon,
c'est un ordonnance. Juste, je voudrais préciser un truc.
C'est bien le fait d'être confondu avec Charles de Courson.
Monsieur Courson, bref. J'ai plein de collègues qui sont.
Je salue Charles de Courson ce matin, qui est un excellent député.
Allez-y.
Exactement, je suis d'accord avec vous. J'ai plein de collègues qui sont de fervents supporters de Macron et qui sont contre cette réforme. Je veux dire, même les gens dire la légitimité, il a été élu, machin, mais même les gens qui votaient pour lui.
Mais voyez, moi, je n'ai pas voté pour lui, je suis pour cette réforme.
Mais tu ne la connais même pas, la réforme, on ne sait même pas à quoi elle ressemble.
Il faut réformer les retraites, il faut que les gens partent plus tard à la retraite, il faut supprimer les régimes spéciaux, il faut remettre ce pays au boulot.
Le problème, Charles, c'est que c'est... Parce qu'il va voter contre Macron, c'est tout. C'est un vote anti-Macron,
d'accord, on a bien compris, tu l'as déjà dit, c'est 15 fois que tu mets le même argument.
Mais dis bien le prouver.
Je te dis, dans ce cas-là, Macron a qu'à dire, il y a référendum, et si c'est non, je reste en place. Comme ça, au moins, on règle la question.
Justement, c'est la question que je posais à Mehdi.
Ça, c'est vrai.
Si jamais c'est non, le nom qui s'il emporte, le président reste en place, vous êtes d'accord?
Mais qui reste, mais il prendra ses responsabilités.
Non, mais ça veut dire quoi?
En l'occurrence, il prendra.
S'il reste, c'est la révolution.
Mais excusez-moi, moi je ne parle pas, contrairement à vous, je ne parle pas à la place des gens, il fera ce qu'il veut.
Chirac, il peut rester en place et puis
Chirac était resté.
Il reste.
Non, mais c'est pas ce qu'il veut, Mehdi.
Il reste et il dissout l'Assemblée.
On avait eu de la chance parce que c'est grâce à ça qu'on avait eu Raffarin. Souvenez-vous que nous avons eu Jean-Pierre Raffarin Premier ministre grâce à l'échec du référendum de 2005.
Mais c'est dire à quel point ça a été une calamité.
Cette réforme telle qu'elle est, elle est présentée, elle est jugée socialement injuste.
Parce que tout ce que fait Macron est jugé socialement injuste.
Pourquoi?
À raison.
Mais bon, voilà.
Bah voilà.
Parce que tout le monde voit bien qu'il
parce
défend.
Parce que les gens se disent, quand en fait, nos concitoyens les plus riches de travailler plus longtemps.
Oui.
Et ça pénalise qui? Ça pénalise pas les avocats, les cadres sup, les gens qui ont choisi leur métier, les professions intellectuelles. Ça pénalise les gens qui font un boulot qu'ils n'ont pas choisi, un boulot plutôt physiquement ou moralement. Donc c'est une réforme.
Donc il faut une réforme.
Mais mon cher Charles.
Pas celle-là,
mais
c'est pour ça que les Français sont majoritairement
mais
contre.
En plus, Charles, rappelle-toi de le premier projet d'Emmanuel Macron, c'était quand même de dire, oh, elle est jolie la caisse des indépendants, dis donc, et des avocats, c'est joliment excédentaire, tout ça. Je crois bien que l'État va se servir dedans. Et je crois que justement, les avocats se sont assurés en disant.
Oui, ben moi, j'ai pas fait
voilà.
Grève.
Mais
moi,
j'ai pas fait
grève jaune.
Ah, ben tiens, bravo.
Mais j'ai pas fait grève, je m'en foutais de cette caisse autonome à la con.
Mais tu te rends compte, vous avez fait
elle
des économies,
rien,
on va venir
cette caisse autonome, ils font n'importe quoi avec.
Bravo.
On est tondus par nos caisses de retraite, les avocats.
Mais c'est pas une raison.
On est tondus par nos caisses de retraite, je ne sais pas ce qu'ils font avec le pognon. Moi, je suis pour la suppression de l'intégralité des régimes spéciaux. Je suis pour le même âge pour tout le monde.
Combien?
Je pense
75 ans.
64, 65. Ça me paraît très bien. 65, c'est très bien.
Y compris dans le BTP, y compris quand t'es carreleur. Ah bah bravo.
Et au boulot dans ce pays. Et crois-moi que.
T'as commencé à 18 ans et tu vas aller bosser jusqu'à 65. Mais ça va pas.
Crois-moi, Josiane, que dans ce pays.
Oui, Charles de Courson.
Crois-moi que dans ce pays. Et ça me flatte. Ceux qui s'opposent à la réforme des retraites, c'est pas les carreleurs et les métiers pénibles. C'est tous les planqués. Qui attendent gentiment d'avoir leur retraite à 57, 58 ans, et on en connaît.
On en a eu ici des gens qui travaillent dans les BTP.
J'ai leur nom.
Merci Mehdi d'avoir été dans les studios.
Et Mehdi, permettez d'intervenir une dernière fois
sur la Mirabelle
à Monsieur Charles de Courson. Je suis pas un planqué. Je suis infirmier. J'ai 48 ans. J'ai déjà le dos cassé. Je peux pas faire jusqu'à 50 ans. Point barre.
Voilà. Et Mehdi,
mais injuste cette réforme.
Mais Mehdi, quand même, la question essentielle, les Mirabelles, c'était comment cette année?
Il n'y en a pas eu beaucoup, mais bon, la Mirabelle est toujours bonne, avec modération bien sûr.
Merci Mehdi d'avoir
bonne
été avec nous. Bonne journée, à bientôt dans les GG. De la Meurthe et Moselle, on descend dans le Var. On fait un beau trajet là. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, référendum ou pas?
Ah non.
Pourquoi?
Pas référendum.
Pourquoi chef?
Parce que, est-ce que les Français sont capables de savoir la réalité des comptes de retraite actuellement.
Si on leur explique, oui.
Si on nous expliquait un peu correctement et que les rapports du corps ne changent pas d'avis toutes les 5 minutes.
C'est même pas leur expliquer. Actuellement, on nous dit le régime est pas déficitaire,
excédentaire,
oui. Et dans quelques années, il sera déficitaire.
Oui.
Et pour revenir excédentaire en 2030.
C'est ce que je vous dis, les rapports du corps, c'est n'importe quoi. C'est en fonction de l'exécutif, ce que l'exécutif veut, le rapport du corps rédige.
Donc les Français n'ont pas les éléments pour juger si la réforme des retraites est bonne ou pas.
Alors qui a les éléments?
Je pense que le gouvernement a tous les éléments pour pouvoir décider s'il faut faire une réforme.
Nos députés aussi, hein. Mais nos députés aussi, Philippe. Nos députés de l'opposition, ils ont aussi d'autres idées, ils ont des informations aussi. Il y a des commissions parlementaires qui, ont des rapports qui disent le contraire.
Si la gauche dit non, c'est pas bon, mais en réalité, ils regardent pas les rapports.
Le RN aussi n'est pas d'accord.
Mais c'est une conviction. C'est pas
du
rapport
tout
à la réalité.
Mais pas du tout.
La réalité dit moi, je suis à la retraite. J'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite cette année, au mois de septembre. Je ne pouvais plus travailler pour des raisons de santé. Donc, à 64 ans, j'ai pris ma retraite. 64 ans. Donc, les Français, s'ils bossent jusqu'à 64 ans, c'est quoi le problème? La majorité des Français, pour avoir leur taux à taux plein, ils doivent bosser jusqu'à 67 ans. la majorité.
Oui, mais c'est ça le problème, Philippe. C'est ça le problème, c'est que les Français sont inquiets. Ils ne sont pas sûrs d'avoir une bonne retraite. À la limite, c'est pas l'âge qui compte, c'est avec combien on va vivre la fin de sa vie. Et l'inquiétude, elle est là.
Et aujourd'hui,
toutes les réformes qui ont été faites ont été dans le même sens, de dire aux gens, vous travaillez un peu plus. Hollande a fait pareil, hein, avec la baisse de cotisation. Simplement, on n'a pas répondu à la question, à mon avis, qui est essentielle, c'est on part avec combien à la retraite? Avec combien, aura-t-on sur notre compte en banque pour vivre dignement la fin de sa vie? C'est ça la question.
Par rapport à sa situation, si vous êtes propriétaire, si vous n'avez plus de charges, si vous partez avec 1500 euros,
vous êtes d'accord avec moi?
Vous voyez, Philippe, tous les paramètres sociaux, économiques, voire territoriaux qui sont nécessaires pour faire une retraite juste, une réforme des retraites juste, c'est pas une réforme qui est uniquement sur cette histoire d'âge pivot, et vas-y 65, et vas-y 65 comme un mantra.
Et donc vous voulez un mouton à 5 pattes qui ne se fera jamais.
Mais actuellement, l'âge de départ à la retraite pour la majorité des Français, c'est 64 ans.
Alors, Philippe,
croyez bien, Philippe, que depuis le temps qu'on recule l'âge pivot, si c'était ça qui avait réglé le problème, ça serait. On voit bien qu'à chaque fois qu'on fait une réforme paramétrique sur l'âge pivot, ça ne résout aucun problème.
Mais j'ai encore une deux ans après.
Si, ça règle pendant 5 ans le problème.
Ça montre bien que c'est pas une
réforme. Macron n'avait qu'à aller au bout de sa première réforme systémique, soi-disant, sauf qu'elle était toute bancale. Donc maintenant, il n'a qu'à aller vers un vrai courage. C'est le référendum qui repropose une réforme des retraites qui sera correctement expliquée aux Français avec un débat technique où il y aura la droite, la gauche, le RN, etc. Et on saura.
Merci Philippe d'avoir été avec les GG. Vous aurez conclu la discussion, donc référendum ou pas. On va regarder le résultat. C'est un oui, 70%. Vous avez gagné 2 points quand même.
Vous avez perdu quand même.
30%. Oui, c'est une défaite assez impressionnante tout de même. Mais ils ont réussi à grappiller deux.
On a gagné sur la
Mais moi, je te dis que ce sera le résultat.
C'est grâce à l'intervention de Charles de Courson.
Le référendum anti-Macron, il donnera ce résultat-là.
Didier, tu as perdu, c'est fini.
70% contre.
On se retrouve demain.
Retourne shooter les loups, Didier.
Demain, nous serons.
Je ne suis pas chasseur.
Alors, demain, nous serons avec un duo de Bruno que tout oppose.
On les a mis ensemble, les Bruno.
Oui, on les a mis à Porcher. On a Bruno Pomard et Bruno Poncé.
Le flic et l'anti-flic. Ouais, en gros, si je résume.
Ah ben, tu peux, quasiment. Bah, et Bruno, il a toujours dit qu'il détestait tout ce qui portait un uniforme, tout ce qui est autorité, tout ce qui est police.
Sauf le cheminot.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un uniforme.
Si, les contrôleurs.
Ouais, c'est un gilet, c'est pas un uniforme.
Contrôleurs,
Sarah Salman, l'avocate, sera avec nous aussi. Rendez-vous demain. Estelle Denis, s'il vous plaît.
Mais oui, je suis là.
Qui t'a gribouillé sur ton pull?
Non, mais c'est un petit pull très sympa. Écoute, c'est un petit pull d'hiver, tu vois. Il n'y a pas de col roulé encore. Mais...
Forever Young.
Il y a des pendus.
Ça sera interdit au Qatar, ce genre de col en V. Allez, vas-y, go. Interdit au Qatar.
Non, mais bien sûr que non.
Ça, c'est vrai.
De quoi allons-nous parler? De nombreuses grandes villes de France qui boycottent la Coupe du Monde au Qatar en refusant d'installer des fan zones ou encore des écrans géants pour la compétition.
Bravo.
Est-ce que c'est. Bon, pas du tout. Enfin, est-ce que c'est salutaire ou démago? On en débat au 32-16. Pour ou contre l'abaissement des droits de succession? C'est une proposition d'Aurore Berger, la chef du groupe Renaissance à l'Assemblée. Donc là encore, vous nous dites ce que vous en pensez. Et puis enfin, vous dormez avec votre femme, Alain, ou pas?
Ah oui, confirme, ce matin, elle était là encore.
Ah bah écoutez,
dans un 160.
Vous savez, ce sera peut-être plus le cas demain, hein, on ne sait pas.
Peut-être.
Mais en tout cas, sachez que 10% des Français en couple font chambre à part. Est-ce que c'est la bonne solution pour être heureux à deux? Racontez-nous comment ça se passe chez vous, donnez-nous vos petites anecdotes, croustillantes ou pas. On vous attend au 32-16. On sera dans un instant avec Jérôme Lavrieux, Perico Légas et Thierry Moreau.
Bonne émission avec Estelle, bon débat, rendez-vous demain 9h avec les GG.